On va parler de quelqu'un qui a une grande foi et qui lui a su aussi discerner, voir cet invisible qui a mis sa foi. C'est Noé. Est-ce que vous vous rappelez de Noé ? Qu'est-ce qu'il a fait, Noé ?
Il a fait quoi ? Il a marché. Une arche. Ah d'accord, okay, excusez-moi, ah. J'entends pas bien moi, je suis comme Mireille, mais avec les oreilles. Il a fait quoi du coup, Noé ? Il a construit ?
Une arche. Pourquoi il a construit une arche ? Il pleuvait pas chez lui ?
Dans le désert ?
Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais, mais ouais. Il n'a pas plu tout de suite. Il a plu quand ? Entre le moment où Dieu lui a dit « construis une arche », on est en plein milieu du désert. Et lui, il construit une arche. Alors, il y a des Américains qui se sont amusés à reproduire en grandeur nature l'arche. Voilà, au Kentucky, c'est ça ? C'est pas KFC, hein. C'est Kentucky, c'est un État aux États-Unis. Okay ?
Et, ouais, et on voit dans Hébreux 11, verset 7... C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi, c'est-à-dire que Noé, lui, il avait déjà vu, il avait compris, il avait entendu et il a été averti. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'invisible, là où Dieu était, eh ben, il y a eu un impact dans le visible. C'est-à-dire qu'il a parlé à Noé, et Noé, lui, par la foi, parce qu'il avait cru, eh ben, il a pu construire son arche et être sauvé.
En fait, ce que tu veux dire, c'est un peu comme Mirette, en fait. Elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas.
Bah, c'est un peu ça.
D'accord.
Il a été averti avant.
Ok, d'accord. Donc, comme Mirette, lui, Noé, il voyait des choses, alors que les autres, ils ne voyaient pas non plus, non. Comme la famille Taupe.
C'est ça.
Ils ne voyaient pas du tout, ils étaient complètement aveugles.
C'est
et
ça.
Lui, il avait vu, du coup, il a construit son arche. Et à un moment donné, quand il a plu, du coup, bah, il a essayé de les prévenir.
Il a été sauvé.
Non, et lui a été sauvé. D'accord. Ok.
Donc de là, on peut tirer quatre principes du monde invisible. Quatre. De l'invisible sort des choses visibles. On voit avec Noé, par exemple. L'invisible est éternel. La foi permet le transfert de l'invisible vers le visible. Et on l'a chanté ce matin. Et comment on active cet invisible ? Ben c'est là par la prière.
Attends. Non mais ça c'est bien. Ok, je veux dire, mais sur quoi tu t'appuies là pour me dire tes quatre principes là ?
Bah facile. Alors, de l'invisible sort du visible. Enfin, de l'invisible, oui, sort des choses visibles. Dans Hébreux 11, verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. De sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc Dieu, là, est bien clair. C'est vraiment le monde visible qui a été fait à partir des choses invisibles.
D'accord. Ok, cool.
L'invisible est éternel. 2 Corinthiens 4, verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles.
Donc ça veut dire que ce que l'on ne voit pas, ça dure tout le temps, mais ce que l'on voit, ça ne dure pas tout le temps.
C'est ça.
Ok.
Wow. Et c'est important de voir ça parce que vous, les enfants, et nous, les adultes, on aime investir dans les choses du monde, ce qui est normal. Enfin, on vit là, on aura envie. Mais ce que Jésus veut nous dire ce matin, c'est que vraiment, il y a une importance à prier, une importance à croire et à mettre notre espérance en Jésus parce que tout ce qu'on investit dans le monde spirituel, ça ne va jamais périr, ça sera éternel en fait. Et ça, c'est important. Et pour la foi permet le transfert entre le visible et l'invisible, tu peux lire ce verset.
C'est Hébreux 11, au verset 1. On l'a déjà lu tout à l'heure, mais cette fois-ci, ce qui est important de noter, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, la foi, c'est comme un révélateur qui permet aux choses invisibles de passer vers le visible. Par la foi, on saisit l'invisible et ça devient réel pour nous. Et puis, comment on active l'invisible ? Ben dans Matthieu 7, verset 7, on voit ce que Jésus nous a enseigné. Jésus, il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc comment on active les choses invisibles? Tout simplement par la prière. Quand on demande à Dieu, quand on prie le Père Céleste, lui, il entend et lui, il répond, puisqu'il est le Dieu qui exauce. Et en fait, Dieu nous invite par la prière à activer et réclamer les choses invisibles, les promesses qu'il nous a données, parce que la prière est efficace. La prière, elle enclenche un mécanisme par lequel Dieu s'est engagé à nous communiquer ses grâces et ses bénédictions. Amen. Et en fait, comme le monde spirituel fonctionne avec des lois, et on utilise toutes ces lois sans même y penser. Par exemple, il y a la loi de la gravité. Si je lâche un objet au sol, il tombe par terre. Il y a la loi de l'offre et de la demande. Il y a différentes lois dans le monde que l'on connaît. Eh bien, le monde spirituel fonctionne aussi avec des lois, c'est-à-dire des principes. C'est un mode de fonctionnement. C'est pas une loi genre un commandement, etc. C'est quelque chose qui fonctionne en tout temps et en toutes circonstances, comme la loi de la gravité. La loi de la gravité, elle s'applique que vous soyez en France, en Chine, etc. Elle s'applique pas dans l'espace, mais en tout cas sur la Terre, elle s'applique. Eh bien, dans le monde spirituel, il existe des lois spirituelles. Il existe des principes qui gouvernent le monde spirituel, et c'est important que nous puissions les connaître, comme Mirette en fait. C'est important que nous puissions les voir pour pouvoir adapter notre comportement de façon à pouvoir aller de l'avant et ne pas se laisser perturber par tout ce qui peut se passer autour.
Et ce matin, on va aborder une loi, parce que vous imaginez bien que des lois, Dieu en a créé énormément. Et une des lois qu'il a créées dès le commencement, c'est la loi de la semence. Ce qui est bien avec la loi de la semence, c'est qu'on peut facilement comprendre. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien, on plante une graine, elle pousse. Donc c'est quelque chose qu'on connaît en fait. C'est valable pour tout. Et on va voir que dans Genèse 1, verset 11, que Dieu a créé tout cela. Puis Dieu dit « Que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leur semence sur la terre. » Et cela se passa ainsi. La semence, c'est la graine. Et on voit que facilement, en fait, quand on plante, c'est le moment en ce moment, on peut planter des petites graines. Je ne sais pas, vous avez expérimenté ça, les enfants? Eh bien, la petite graine se met à pousser, ça devient une fleur, ça devient une plante. Eh bien, au niveau spirituel, c'est la même chose. Jésus a beaucoup parlé à travers la parabole du semeur, de la semence, et on le voit dans Luc 8, versets 5 à 8.
En fait, dans cette parabole-là, c'est une parabole qui est bien connue. Est-ce que, les enfants, vous pouvez deviner de quelle parabole il s'agit? Juste d'après l'image. Je vous ai dit, je suis pas très fort. Vas-y.
La parabole du semeur.
Ouais. T'as gagné. C'est la parabole du semeur. Dans cette parabole-là, Jésus, il nous enseigne qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer et il a semé dans quatre types de sols différents. Il y avait le chemin, il y avait le sol rocailleux, il y avait le sol avec très peu de profondeur et enfin il y avait le bon sol. Et ce que l'on voit, d'après l'interprétation qui nous a été donnée dans les versets suivants, c'est que ces quatre types de terre correspondent à quatre types d'attitudes face à la parole de Dieu, quatre types de cœurs dans lesquels la parole, qui est une semence, peut pousser. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que cette loi de la semence que Dieu a mis en place au commencement, donc il y a une loi qui s'applique, il y a des graines et ça pousse. Eh bien, dans le domaine spirituel, vous avez un parallèle. La parole de Dieu est une semence et elle est semée dans les cœurs. Et il appartient à chacun d'entre nous de nous assurer que le terrain de nos cœurs soit bien préparé. Et parfois, et on le voit, parfois les soucis du monde peuvent faire que cette graine ne parvient pas à s'enraciner en nous. Mais si le cœur qui reçoit la graine est bien disposé, alors à ce moment-là, la plante, la semence, va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer si la semence, elle va dans la bonne terre? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pousser. Oui, tout simple. Tout simple, une graine, vous la plantez et ça pousse. Et bien là, c'est pareil dans le domaine spirituel. Quand Dieu plante une graine, une parole dans notre cœur, si notre cœur est préparé et réceptif, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse. Tout simplement. C'est pas plus compliqué. C'est la même chose, en fait.
La parole invisible qui est semée dans l'invisible, qui est semée dans nos cœurs, produit du visible. Si et seulement si on le laisse s'installer. Si on a la foi, si on croit en Dieu, si on laisse la parole de Dieu œuvrer dans nos cœurs, alors elle va croître, elle va augmenter et alors ça va être des belles choses qui vont pousser. À nous aussi d'être vigilants à nos cœurs aussi. Et c'est la foi, c'est la prière qui va faire que le terrain de notre cœur va être propice à faire croître la parole de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu décides de semer ce matin ? En fait, quand on décide de semer, c'est un choix. Par exemple, moi, si je fais mon jardin, c'est moi qui décide de semer des tomates, des courgettes, des poivrons. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on décide de semer ? Tu as le choix de semer de la gentillesse, de la joie, de l'amour, un sourire. Voilà, on choisit de semer ça. Et tu récolteras aussi de la joie, de l'abondance, de l'amour. Par contre, si tu choisis de semer la colère, si tu choisis de semer le mensonge, si tu choisis de semer la discorde, tu vas retrouver que la rivalité, que tu vas retrouver que la guerre, que la tempête. Dans Osée 8, verset 7, c'est bien écrit, « Ils ont semé le vent et ils moissonnent la tempête. » Et Dieu, lui, nous invite à vraiment mettre notre confiance en lui et à décider de faire ce choix de semer les bonnes choses, que notre cœur soit un beau terreau pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Parce que ce qui va pousser, ce qui va sortir de nos vies, de nos cœurs, ça va forcément avoir un impact. Si je décide de planter la gentillesse, on pourrait la comparer à une belle rose. Elle va sentir bon. Ça va, les gens autour vont dire « Oh, dis donc, ça sent bon, cette affaire-là. » C'est un peu ça. Une autre question aussi, c'est de se dire dans quelle quantité tu sèmes. Tu peux semer un sourire, par exemple, mais c'est mieux d'en avoir plusieurs. Tu peux semer la gentillesse une fois, mais c'est mieux d'en semer tout le temps et se laisser renouveler par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 9, verset 6, il est écrit « Celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. » Dieu est un Dieu d'abondance. Et il veut que l'on sème en abondance. Il sème dans nos cœurs en abondance et il veut que nous aussi, on sème en abondance. J'ai envie de dire, c'est un effet de boule de neige. Si on se laisse remplir par Dieu et qu'on laisse la vie de Dieu en nous, alors forcément, nous aussi, on va semer énormément.
Et ça, c'est extrêmement important. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut semer dans nos cœurs sa parole et afin que, comme il l'a dit tout à l'heure, elle puisse grandir. Et Dieu, quand il fait les choses, lui, il sème avec abondance. Dieu est le Dieu de l'abondance. Quand il nous communique son amour, il ne nous donne pas juste un tout petit peu, un tout petit truc. Il nous communique tout son amour. Quand il nous communique sa joie, c'est toute sa joie. Dieu est quelqu'un d'entier qui veut l'abondance. Il a dit qu'il voulait nous donner la vie et la vie en abondance. Ok ? Dieu est le Dieu qui sème énormément. Il investit, il prend du temps. Est-ce que les enfants, vous pensez que quand on sème, ça pousse tout de suite dès le lendemain? Ça pousse en combien de temps? Des mois, des années? Ouais, parfois des années. Bon, mais des mois, au moins des mois ou des semaines, on voit quand même des choses qui poussent, on est d'accord? Eh bien, en fait, Dieu, c'est exactement pareil. Dieu travaille avec le temps. Et parfois, il sème dans nos cœurs quelque chose. Parfois, il nous donne une parole, il nous donne une promesse, il nous donne un projet. Mais entre le moment où il nous l'a donné et le moment où ça pousse, ça peut prendre du temps. Dieu travaille avec le temps. Nous, aujourd'hui, on est à l'ère d'Amazon. La fois dernière, on a commandé un livre pour Ruben. On l'a reçu quand ?
On a commandé le soir, on l'avait le matin.
Voilà. Ça, c'est aujourd'hui. Je commande le soir, je l'ai le lendemain. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas comme ça. Dieu travaille avec le temps. Dieu choisit. Dieu met sa parole de vie en nous. Il a choisi les graines, ce que l'on sème. Il met sa parole là et il travaille pour que ça produise du fruit. Qui fait croître ? C'est Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est Dieu qui fait grandir. Eh bien, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse comprendre que le Dieu que nous servons est le Dieu de l'abondance, qui lui mise sur nous, il sème en nous sa parole avec abondance, qui nous permet d'aller de l'avant. Si on sème le bien, on récolte le bien. Si on sème le mal, on va récolter le mal, tout simplement. C'est la loi de la semence, ça s'applique automatiquement. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est à semer le bien tout autour de nous. Alors quelques remarques quand même par rapport à cette loi de la semence. Il y a des fois, on sème du bien et on ne récolte pas toujours en proportion de ce qu'on a semé. Ça c'est vrai, on l'a tous expérimenté. On a déjà été avec un collègue hyper gentil, puis lui, il nous a envoyé bouler complètement. Non, ça arrive qu'à moi ça, non ? Ok, vous avez semé le bien, mais lui, il n'a pas forcément répondu pour plein de raisons, lui ou elle d'ailleurs. Et je voudrais vous laisser un encouragement. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. Continuez de semer. Parce que forcément, et c'est écrit dans 2 Thessaloniciens 3 au verset 13, et vous, frères, on peut rajouter sans se tromper, sœurs, ne vous lassez pas de faire ce qui est bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne vois pas tout de suite le résultat de ce que tu as semé qu'il faut abandonner le fait de semer. Ce n'est pas parce que ça ne pousse pas tout de suite que ça ne va jamais pousser. Dieu a son temps. Mais en ce qui concerne celles et ceux qui sont autour de nous, Dieu nous invite à semer et à être généreux, à semer en abondance. Ça, c'est la première remarque. Parfois également, et c'est une deuxième remarque, tu sèmes, mais c'est d'autres qui récoltent. Et ça, on le voit aussi. Tu pries pour une personne, mais c'est d'autres qui leur auront parlé de Dieu, et il va se convertir en ayant entendu parler de Dieu par une autre personne. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu aies semé dans le cœur, que tu aies semé la gentillesse, que tu aies semé une parole, que tu aies semé quelque chose, et en abondance, de façon à ce que, tôt ou tard, à cause de cette loi de la semence, tu puisses récolter. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne récolte pas pour nous. On récolte pour les autres, pour produire quelque chose. Quand tu sèmes quelque chose, c'est pour produire quelque chose, pour produire du fruit. C'est pour les autres. Eh bien, Dieu sème en nous pour que nous puissions produire du fruit pour sa gloire. Et ça, c'est une des conséquences de la loi de la semence. La loi de la semence, selon Dieu, elle implique la gloire de Dieu. Amen. Alors, je voudrais conclure avec ce verset-là, Éphésiens. Ah oui.
Oui, pour conclure, on a bien vu que la foi, c'est l'organe qui nous permet de saisir ces réalités spirituelles et qui nous permet d'accéder vraiment au monde spirituel. Ça permet de voir des choses que les autres ne voient pas, comme Mirette, qui a vu alors que ses parents ne voyaient pas. Ça nous permet d'avoir un comportement différent, d'avoir une attitude différente, parce qu'on a une vision, parce qu'on a une foi, parce qu'on a le moyen de mettre en action tout ça. On a la prière qui nous fait rentrer dans une dynamique différente. La prière, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir vraiment rentrer dans ces réalités spirituelles. Et la deuxième loi qu'on a vue, c'est effectivement la loi de la semence.
Tu sèmes ce que tu récoltes.
Si tu sèmes, tu récolteras. Et dans le temps de Dieu. On ne peut pas obliger une graine de radis à pousser aussi lentement qu'une pomme de terre, par exemple. Un radis, en une semaine, c'est fait. Une pomme de terre, il lui faut 110 jours. On ne peut pas obliger Dieu à faire croître ce qu'il a mis dans nos vies plus vite que ce qui est prévu. Il y a un temps de Dieu. Et ça, c'est important d'intégrer. Dieu a dit « Demandez et vous recevrez », mais il n'a jamais mis de notion de temps. Donc, soyons persévérants, prions, parce que Dieu, pour sûr, il va répondre, mais en son temps. Ce qui a été semé est semé, mais ça va sortir au moment voulu. C'est Dieu qui fait croître. Et chaque semence a sa spécificité. Et si on fait le parallèle avec nos familles, on a tous chacun nos familles, on a tous nos spécificités, on a tous semé des choses dans nos familles en tant que parents, même les enfants s'aiment. Peut-être que des fois, on a semé des mauvaises herbes, des mauvaises choses, ça arrive. Mais Il est encore temps aujourd'hui de se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de semer dans le cœur de mes enfants? Qu'est-ce que je suis en train de semer dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il en sorte? J'ai mis des mauvaises herbes, ben on arrache et on recommence. Il n'y a pas de problème. Hein, on paille, on enlève les mauvaises herbes. Parce que Dieu, lui, c'est un Dieu qui va semer dans nos vies, si on le laisse faire, il va faire croître des bonnes choses dans nos familles. L'amour, l'écoute, l'entente, la joie, l'unité. Parce que comme on le disait au début, il y a deux mondes, deux invisibles. Dieu, d'un côté, avec ses anges, et le diable. Et on sait bien que le diable n'aime pas trop nos familles. C'est son but aussi de les détruire. Restons donc attachés à Dieu. Arrosons nos familles de prières. Vraiment, déversons, j'appelle ça l'engrais vert de l'amour. Mettons plein d'engrais, mettons de l'amour dans nos familles, dans notre couple. Prenons du temps pour prier. Et même si on ne voit pas les choses qui peuvent se passer dans le cœur de notre mari, même si on ne voit pas les choses qui se passent dans le cœur de nos enfants, quand bien même ils sont partis, qu'ils ont 40 ans et qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu, vous avez planté. Et un jour, Dieu fera croître. Ça, c'est une certitude. Et il faut vraiment continuer. J'insiste sur la prière parce que la prière, c'est l'action, c'est le moteur, quoi. Si on veut que notre voiture démarre, il faut bien mettre le moteur. Et si nous, on veut avancer dans notre marche spirituelle, si on veut voir ces choses invisibles, ben, il faut mettre le moteur de la prière. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, ça demande de revoir nos plannings, ça demande peut-être de se lever plus tôt. Mais je pense que prier pour nos familles, prier pour son mari, prier pour nos enfants, c'est le numéro un dans nos vies. Parce qu'on récoltera ce qu'on aura semé. Et vraiment, je veux vous encourager avec ce verset dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a dans le ciel, elles sont pour nous. À nous d'ouvrir le robinet, à nous d'enclencher pour que tout ça coule dans nos vies. Et vraiment, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu qui aime les familles et son seul but, c'est de nous remplir de ses bénédictions. Et vraiment, je veux vous encourager à activer cette loi de la semence et à mettre en avant non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Parce que parfois, on est découragé, on prie pour une personne, on prie pour un enfant, on se dit « mais c'est pas possible, il n'y a rien qui change, on est un peu tracassé ». Mais croyons, dans l'invisible, que Dieu puisse aussi nous mettre sa pensée sur les... Parfois, on voit des choses et Dieu nous dit « t'inquiète, parce que j'ai ça et ça pour en projet pour sa vie ». Et tenons ses promesses entre nos mains.
Ouais. Restons centrés sur les réalités invisibles. Comme Mirette, on ouvre les yeux et on regarde les réalités autour de nous. Il n'y a plus à voir. On peut se contenter de rester comme des taupes là, et puis dans notre petit monde fermé d'obscurité, où on peut choisir de voir, d'activer ces lois-là. Et alors le monde qui va s'ouvrir à nous sera un monde de possibilités, un monde de projets, un monde où Dieu va nous montrer « tiens, tu vas là, tu vas là, tu vas là, tu vas là ». Je crois que c'est extrêmement important ce qu'on vient d'entendre. Et cet enseignement de Mireille qui voyait, c'est pas grave si les autres ne voient pas, ils ne peuvent pas forcément voir. Mais quand ils s'approcheront de Dieu, la Bible nous dit que les yeux vont s'ouvrir et ils vont voir les choses. Et ils vont pouvoir enfin comprendre pourquoi nous on fait ça, pourquoi Mirette faisait ça, etc. Parce qu'elle voyait les choses. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Donne-nous, Seigneur Jésus, de voir, Seigneur, les réalités spirituelles. Donne-nous de garder nos yeux fixés sur ces réalités spirituelles, celles que tu mets dans ta parole. Nous voulons, Seigneur Jésus, comme Mirette, regarder les choses et voir et contempler ta gloire, Seigneur, parce que tu nous as donné la possibilité de les voir, comme tu avais donné à Mirette les yeux pour voir, tu nous as donné la foi pour saisir les réalités spirituelles. Seigneur Jésus, tu nous as donné aussi cette loi de la semence qui fait que quand tu sèmes, Seigneur, il va toujours se passer quelque chose parce que c'est toi qui l'as dit, c'est toi qui as mis en place cette loi. Et tu as semé dans nos cœurs des projets, tu as semé dans nos cœurs des paroles, tu as semé dans nos cœurs des promesses. Et nous verrons l'accomplissement de ces projets, de ces paroles et de ces promesses, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Alors nous voulons, Seigneur Jésus, nous centrer ce matin sur l'invisible. Regarder à l'invisible, ne pas regarder à ce que nos yeux physiques peuvent voir, mais considérer la perfection du monde invisible. Considérez que tu es le Dieu de l'invisible, que dans l'invisible, tu agis et qu'il y a un impact dans le visible. Nous prions le Dieu invisible, nous invoquons le nom de Jésus que nous ne voyons pas. Mais la réalité Elle s'incline devant la vérité spirituelle. Et nous proclamons au Éternel que ton esprit œuvre et ton esprit nous permet de voir les choses. Ah Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir avec tous les saints quelle est la grandeur de ton amour. Quelle est vraiment, Seigneur, la largeur, la profondeur et la hauteur de ton amour. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, que ces graines qui ont été plantées dans les cœurs ce matin, Seigneur, puissent vraiment s'implanter. Que les oiseaux du ciel ne puissent pas venir les prendre, mais qu'elles puissent s'enraciner et porter du fruit au Éternel, conformément à cette loi spirituelle que tu as mise en place. Qu'à toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.